Bonjour et bienvenue dans Le Seuil de mon chien, le podcast dédié à l'anxiété de séparation chez nos toutous. Nous sommes Clarisse et Julie, toutes les deux coachs en comportement canin, spécialisées dans les problématiques liées à la solitude.
Notre mission est d'aider les familles à enfin partir de la maison en laissant un chien serein chez elles. Dans ce podcast, nous serons transparentes sur tous les aspects de cette thématique. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
L'épisode d'aujourd'hui a pour but de vous expliquer notre façon de travailler pour aider les différentes familles que l'on accompagne dans les soucis qu'ils rencontrent avec leurs chiens.
La première chose à comprendre, c'est qu'on travaille individuellement avec les familles et les chiens. On analyse et on fait des suivis sur mesure. Et pourquoi ? Parce que c'est tout simplement un vaste sujet, la solitude, l'anxiété de séparation, la détresse d'isolement, etc. Ça change vraiment en fonction de chaque individu. Chaque chien va réagir de différentes façons. Chaque chien va avoir des problématiques différentes, des causes différentes. Et ça, il faut vraiment l'analyser et comprendre pour pouvoir vraiment agir et avoir des résultats sur le long terme.
Le sujet est vraiment tentaculaire, en fait. C'est un peu comme une pelote de laine. Il faut trouver le bout par lequel commencer. Il faut trouver le bon axe de travail qui correspond à votre chien et qui vous correspond à vous. Et ça, ça prend du temps. Il faut une analyse initiale pour le faire. Tout n'est pas détresse d'isolement, tout n'est pas anxiété de séparation. Parfois, les problèmes en lien avec la solitude ne sont qu'un symptôme d'un problème qui est plus vaste. Et on ne peut pas faire en fait, de liste exhaustive de catégories de cas qu'on rencontre. Tous les cas sont vraiment différents. Et donc, c'est du sur-mesure est nécessaire pour chacun. Et le rôle du bilan, c'est ça, en fait. C'est d'identifier par où on commence. Donc, un bilan, c'est quoi ? C'est un rendez-vous individuel qui dure de 1h30 à 2h pour analyser tout ce qui se passe, émettre des hypothèses. Et ces hypothèses-là, on les ordonne par probabilité. On vous apporte nos connaissances sur le chien, qui ne sont pas exhaustives. Hein. Personne ne connaît tout sur ce genre de sujet, rappelons-le. Et vous complétez pour nous aider dans notre analyse avec la connaissance et les observations que vous pouvez faire sur votre chien et sur votre mode de vie. Voilà. Ces hypothèses-là, par la suite, on les valide ou on les invalide progressivement. Toute l'analyse, elle n'est pas faite qu'en bilan. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que si votre chien a du mal avec la solitude, il est peut-être impacté par d'autres choses qui vous semblent ne rien avoir avec. Par exemple, l'expérience qu'il vit dehors. Ou inversement. Selon ce qu'on peut déduire des données que vous nous donnez.
Et donc le bilan, vous l'aurez compris, ça prend du temps. Souvent, on passe, enfin moi personnellement, j'envoie un questionnaire pré-bilan pour pouvoir un peu passer sur des questions plus ou moins importantes et pour pouvoir faire des recherches avant le rendez-vous et rentrer vraiment en profondeur pendant le bilan, donc qui dure à peu près entre deux, enfin moi c'est souvent 2 heures, voire 2h30 parce que je dépasse souvent un peu. Et en fait, on fait des recherches avant, comme je l'ai dit, et on peut faire aussi des recherches après le rendez-vous. Des fois, on n'a pas la réponse tout de suite à la fin du bilan. On n'a pas tout de suite des pistes de travail à mettre en place. On a besoin de tester des choses, de prendre des données, de faire des recherches pour pouvoir vraiment comprendre la problématique et apporter des solutions qui sont sur mesure et qui sont impactantes pour le chien, qui vont lui apporter quelque chose de positif.
Ce qui peut être également intéressant avant le bilan, mais ça, on vous le dit pendant l'appel découverte, c'est de nous donner aussi en amont d'autres données, en amont du bilan. Et ça aussi, ça prend du temps au-delà des recherches. On va regarder des petites vidéos que vous nous aurez communiquées. Ça peut être des absences, si vous en avez déjà. Ça peut être un comportement en extérieur que vous nous avez évoqué lors de l'appel découverte et qu'on va devoir voir, puisque rappelons-le, on travaille en visio, on n'est pas sur place. Ça peut être, moi, je demande souvent aussi des descriptifs de routine avec les détails qui vous viennent en tête au moment de l'écrire pour essayer de voir si, pour essayer de dégrossir ces axes-là et qu'ils soient mis sur papier autrement que juste à l'oral, puisque parfois à l'oral, on oublie des détails.
Et je reviens juste du coup sur le point, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit en début de d'épisode, mais on travaille essentiellement en visio. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on ne veut pas perturber le chien pendant les séances d'entraînement avec quelqu'un d'inconnu, donc nous, qui venons chez vous et qui perturbons un peu le chien dans son environnement connu. Et aussi pour créer vraiment des situations réelles d'exercice, pour que ça crée vraiment des vraies absences et qu'au fil du temps, ce soit vraiment un apprentissage à chaque fois en situation réelle.
Ouais, tu vois, moi, par contre, quand c'est à Tours, j'en fais pas une règle générale. Parce que je trouve aussi qu'il y a des éléments très utiles sur place. Au niveau, je sais pas, plein de détails.
Je sais que moi j'en ai fait, enfin quand c'est sur l'île, j'aime bien voir le chien en physique pour pouvoir voir bah, son état émotionnel, comment il se comporte, s'il y a des moments d'excitation, de frustration qu'il arrive plus ou moins à gérer, des choses comme ça que les propriétaires ne voient pas forcément et du coup nous on peut plus remarquer quoi avec notre expérience.
Il y en a où on va se dire intuitivement, tiens, je vais quand même aller voir parce que je veux checker en extérieur, je veux checker le niveau sonore dans l'appart, je veux vérifier tout un tas de choses. Et puis il y en a d'autres où on se dit, non, mais lui, il faut absolument que j'arrive à faire une évaluation où je demande aux gens de bouger un petit peu dans l'appart et voir comment ils se comportent. Et si on en est là, bah, c'est complètement caduque, quoi. Donc après, c'est des choix aussi individuels, encore une fois.
Ouais, adapté. Des fois, je sais que j'ai déjà fait un bilan en visio sur l'île et ensuite je voyais le chien en balade pour voir un peu comment il se comportait en extérieur parce que des fois il y avait des peurs qui découlaient et donc je voulais voir un peu ses comportements parce que en solitude, comme tout est lié, c'est important aussi de voir.
Ouais. Ce qui peut être sympa aussi quand on est à distance et qu'il y a des problématiques à l'extérieur, c'est de travailler en binôme avec un autre éducateur qui va nous donner d'autres informations qui vont compléter ce que nous racontent les familles. Et c'est souvent très intéressant d'avoir les deux visions.
Ouais, même avec des vétérinaires aussi, ça peut permettre aussi d'avoir plein de visions différentes. Et c'est vrai que quand on n'est pas sur place, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire. Donc on peut guider au mieux, mais par exemple, enfin, moi je sais que je ne travaille pas du tout la sensibilité aux humains, aux congénères, donc tout ce qui est réactivité, parce que je m'estime déjà pas assez formée sur le sujet et que des fois ça peut être quand même lié à la solitude. Donc à ce moment-là, je préfère faire intervenir quelqu'un d'autre sur place. Et ça permet aussi d'avoir plein, comme tu l'as dit, Clara, d'avoir plein d'autres données sur le comportement du chien qui peuvent nous être utiles sur le traitement à adapter.
Et donc j'insiste sur le fait que l'analyse préliminaire, elle peut parfois être longue. Vous voyez sur nos sites qu'on vend des forfaits solitude, des forfaits pendant lesquels on va dérouler ensemble un protocole dont le détail va changer selon les individus, mais on va faire des exercices. C'est la partie sexy du protocole parce qu'elle est concrète, qu'on a l'impression de faire quelque chose de palpable parce qu'on écrit des choses dans des documents Excel, qu'on enregistre des vidéos, etc. Mais c'est parfois pas du tout la solution. Il y a vraiment des cas où on va s'appeler après le bilan, une fois, deux fois, trois fois. On va analyser et on va s'acharner sur des détails qui peuvent nous gêner dans la compréhension globale du cas. Et si on pense que des exercices de désensibilisation à la solitude ne sont pas adaptés parce qu'on soupçonne, par exemple, des problèmes de douleur, ou qu'on soupçonne que ce qui se passe à l'extérieur est trop impactant, ou la sensibilité au bruit, ou d'autres choses qui vont du coup rendre caduque ce travail-là, et même sensibiliser le chien à ce travail-là, ce qui fait qu'il sera impossible par la suite, et qu'il y a tout un tas de prérequis à faire, notre rôle aussi, c'est d'insister sur l'importance de ceci et de prendre le temps et du coup au final de ralentir entre guillemets le travail pour ensuite qu'il se déroule de façon plus rapide. Mais c'est frustrant parfois.
Ouais, c'est frustrant aussi bien pour les propriétaires que pour nous, clairement. Mais des fois, on a des gros nœuds au cerveau trouver exactement d'où vient le souci, à quel moment, etc. Donc, ça prend du temps, mais une fois qu'on a trouvé la cause, ça permet d'aller beaucoup plus vite après aussi dans la suite, quoi, dans la résolution de la problématique. Donc, et des fois, il suffit d'un petit détail qui va faire que ça va changer complètement la gestion des absences, le comportement du chien, etc. Donc, c'est important de passer par là quand même.
Est-ce qu'on ne donnerait pas des exemples?
Ouais, vas-y.
Un exemple intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Moi, par exemple, j'ai eu un cas où je me disais, bon, bah, celui-ci va falloir désensibiliser. Ouais, je ne me souviens plus exactement. Je ne sais plus la race du chien. C'était un Jack Russell qui avait déménagé il y a un peu moins de 2 mois et qui, depuis le déménagement, avait du mal à gérer les absences. Et c'était vraiment de pire en pire. Et je me faisais un peu des nœuds parce que je me disais quand même depuis 2 mois, si elle avait dû s'habituer à l'environnement, ce serait déjà fait. Je commençais à tourner le truc dans tous les sens. Puis au bout d'un moment, je regarde, on creuse, on creuse, on creuse, on part, on part, on part. Puis la dame me dit qu'elle réagit beaucoup aux allées et venues devant la baie vitrée. C'est un grand classique hein, dont je parle. Et donc là, je lui dis, bah, attendez, attendez, avant de se précipiter dans tout un travail qui va être long et compliqué, est-ce qu'on peut juste faire un test? Vous mettez du papier flottant de salle de bain sur la baie vitrée, juste ça. Ça résout le problème. Et je m'y attendais pas, je m'attendais juste à ce que la chienne soit plus posée, ou pas du tout d'ailleurs. Et ça a marché. Enfin, il y a parfois des cas surprenants comme ça.
Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai eu le cas notamment sur un bouvier bernois chiot, du coup, qui avait, je crois, 7-8 mois, je pense, qui détruisait pendant les absences et ça s'empirait de plus, enfin, d'absence en absence. Et je sais pas pourquoi je me suis dit sur le moment, ça sert à peu à rien de faire une désensibilisation au vu du bilan parce qu'il y avait des choses qui me semblaient pas adaptées et par rapport à ses besoins, qui n'étaient pas assez comblés, etc., notamment en termes de dépenses physiques. Et du coup, en réadaptant juste les dépenses physiques et mentales aussi, on n'a pas eu du tout besoin de passer par une désensibilisation parce que ça a suffi au chien à se canaliser, à pouvoir vraiment avoir ses besoins comblés et du coup à gérer complètement mieux ses absences. Et ça a résolu le problème de lui-même en quelques semaines. Parce que bah, quand on a un chiot, on pense qu'il ne faut pas en faire trop, etc. Mais on oublie aussi que quand il a 8 mois, il n'a pas les mêmes besoins qu'un chiot de 3 mois. Que ça évolue aussi bien, enfin, que le chien évolue dans le temps. Et ses besoins aussi. Donc, ça à prendre en compte. Et de pouvoir augmenter tout ça, ça a quand même débloqué la situation. Et là, du coup, on n'a pas eu besoin de passer par des sensibilisations qui peuvent être longs et tout ça. Donc, ça, il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut donner, je pense, où il n'y a pas eu besoin de passer par là.
Ouais, moi j'en ai un où on a juste changé l'emplacement du panier à un endroit clairement favori de la choupette. Je précise aussi que les personnes n'avaient pas collecté de données depuis un moment concernant les absences. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est on a bougé ce panier et on a enregistré pour voir ce qui se passait. Et il n'y avait plus de problème. Alors, est-ce que c'était dû à autre chose qui s'était améliorée entre-temps? Je ne sais pas. Mais surprise. Bon, c'est très rarement. C'est quand même assez rare d'avoir
Oui, là, quand
des petites
même.
solutions magiques.
C'est ça.
Mais il y a parfois voilà, des petites variables qui nous aident et parfois on y va à tâtons. C'est pareil pour les cas pour lesquels on a du mal à comprendre ce qui se passe. Moi, j'en ai un en ce moment. Il n'arrive pas à se poser le matin. Et je ne comprends pas pourquoi. Et je veux comprendre ça avant de commencer un protocole parce qu'il y a une différence énorme entre le matin et l'après-midi sur son comportement hors solitude. Voilà. Et pour ça, bon, il faut un volet médical. Il y a d'autres choses aussi à tester. Mais c'est le genre de détails, entre guillemets, qui sont quand même assez flagrants dès qu'on commence à creuser le quotidien du chien. mais qui sont importants pour nous.
Ouais. Ouais, moi aussi, j'en ai un qui me creuse la tête en ce moment. Une border collie qui détruit pendant les absences, mais juste pendant 10 minutes, de façon très aléatoire. Ça peut être à toutes les absences, ça peut être que l'après-midi, que le matin, ça peut être à la même heure, enfin, ça peut être après 10 minutes de départ comme après 2 heures de départ. C'est assez étonnant. Et du coup, bah, on fouille, on cherche plein de trucs, on teste plein de choses et on va essayer de trouver. Mais ça va prendre du temps, je pense. Mais il y a des cas comme ça, ils nous font des gros gros nœuds au cerveau.
Ouais, et du coup, il y a un temps de travail sur ce genre de cas que vous ne voyez pas.
Ouais.
À essayer de lire des choses, à appeler SOS éduc
Ah,
spécialisé ou
ça fait.
non pour voir si des gens ont des idées. Et à tenter des choses au fur et à mesure. Mais ça, vous ne le voyez pas toujours, mais ça fait partie des tarifs des consultations.
Exactement, ouais. La recherche, la recherche.
Donc, le message derrière ça, c'est qu'on n'est pas des machines à protocole. Et que même quand on entame des suivis intensifs, eh ben, on ne les fait pas du tout de la même façon d'un chien à l'autre.
Et du coup, c'est pour ça que c'est important de prendre son temps. Et je sais, on sait que beaucoup d'humains veulent aller vite parce qu'ils veulent absolument résoudre le problème très vite. Mais malheureusement, il n'y a pas de solution miracle qui existe. Des fois, c'est important de prendre le temps de bien faire les choses pour vraiment fonder des bases solides pour pouvoir ensuite être un peu plus tranquille. Donc, tout ce qu'on peut voir sur Internet, dans les livres, dans les podcasts, sur YouTube, sur les blogs, etc. Des solutions miracles, des produits miracles, tout ça. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, mais ça ne suffit pas. Et il faut se méfier de tout ce qu'on peut voir sur Internet et dans les livres. C'est des choses enfin, tout ce que vous allez pouvoir lire, ça va être des choses très générales. Qui sont pas forcément adaptés à votre propre chien parce que il y a sa sensibilité qui prend à prendre en compte. Il y a aussi bah, votre quotidien, son environnement. Il y a plein plein de choses à prendre en compte. Et sur Internet et dans les livres, c'est pas pris en compte tout ça. Et souvent, du coup, après le bilan, donc comme on l'a dit, on fonctionne par des forfaits ou par des séances à l'unité. Donc ça dépend des cas, ça dépend des budgets aussi parce qu'on s'adapte aussi à vous. Et on crée donc des plans d'entraînement sur mesure quand il y a besoin de faire une désensibilisation, par exemple. Et donc, c'est incorporé à plein d'autres choses que la solitude. Il va y avoir tout ce qui est sensibilité au bruit, comme on a dit avant, la routine, tout ce qui va être les besoins, savoir combler les besoins de son chien, tout ça. Et donc, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et on adapte, bien sûr, en fonction de votre quotidien et de votre chien.
Ce qui est dur, en fait, c'est que les réseaux, Internet, la publicité, tout le monde nous promet des solutions super rapides, super efficaces, voire magiques. Parfois, c'est via un produit ou un objet. Tiens, prenez un petit bonbon en CBD. Tiens, prenez un gilet compressif. Enfin, malheureusement, le comportement d'un être vivant, c'est pas un colis Amazon Prime, quoi. C'est plein d'incertitudes. Ça prend du temps. C'est dur d'attendre. Ça nous met en colère, ça nous frustre, ça nous attriste aussi, ça dépend des moments. Dès qu'il y a un petit espoir, à l'inverse, on est plein plein de joie, alors que le chemin est potentiellement encore long. C'est, comment on dit en français, roller coaster. Comment on dit? Montagne russe.
Oui, je cherche.
C'est une montagne russe émotionnelle, mais c'est ça, travailler avec du vivant.
Ouais, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, ça demande du budget aussi. C'est beaucoup d'investissement en fait. Et ça, faut vraiment le prendre en compte. Parce que ça peut être émotionnellement très dur aussi à vivre. Après, nous, on est bien sûr là aussi pour vous soutenir. Dans les moments compliqués où on frustre et où on est en colère, comme tu disais.
C'est pas facile pour nous non plus. Il y a une charge émotionnelle qui est très grande hein, dans certaines séances. Je sais que moi, j'ai plus du mal à gérer les personnes qui sont en colère. Par contre, les personnes qui sont tristes, je ne sais pas pourquoi, ça va plus me correspondre. Mais comme les gens alternent entre toutes les émotions, bah, ça fait un arc-en-ciel.
Ouais, c'est ça. Moi, je sais que j'ai pas forcément du mal à gérer, mais par contre, bah, par exemple, en ce moment, Peter, du coup, a fait une absence un peu pourrie un soir, et ça m'a beaucoup atteint émotionnellement. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai un peu de mal à soutenir mes clients parce que bah, même, enfin moi-même, c'est compliqué à gérer mes propres émotions. Donc après, je le fais, bien sûr, mais je le fais peut-être moins bien que la semaine dernière et je le ferai peut-être moins bien que la semaine suivante. Ça va revenir, mais c'est vrai que quand ça nous atteint aussi nous et que dans les séances, on entend des choses qui reflète du coup ce qu'on est en train de vivre. Enfin, moi personnellement, ça m'atteint et du coup, c'est un peu plus compliqué de rebondir sur certaines choses. Mais après, ça fait partie aussi du package et je suis quelqu'un de très émotive aussi. Donc, c'est normal.
Bon, on a rarement cette spécialité-là par hasard, je pense.
Ouais, je pense, ouais.
Mais du coup, il y a aussi un élément important, c'est que votre émotionnel à vous, il faut qu'on l'incorpore d'une façon ou d'une autre dans les plans d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez avoir besoin de pause, il y a des moments où il va falloir prévoir aussi juste profiter de son chien de façon fun et juste profiter de soi-même. C'est très bizarrement formulé, mais prendre du temps en fait pour soi arriver à s'organiser pour pas s'oublier dans l'équation. On existe sans notre chien. On aime notre chien, mais on existe sans, même s'il a du mal à exister sans nous. Mais voilà, faut qu'on tienne compte de tout ça.
Ouais, c'est important à prendre en compte et puis des fois de faire des pauses aussi. Enfin, je sais que moi, personnellement, quand mes clients me disent qu'ils ont besoin d'une pause, et ben on fait une pause d'une semaine et on repousse la fin du suivi. Enfin, c'est pas, on décale du coup les semaines. C'est pas un souci. C'est pareil si le chien il a une semaine pourrie et que c'est compliqué, que c'est vraiment des régressions. Vaut mieux faire une pause, que tout le monde souffle un coup, se repose. Et qu'on redémarre sur des meilleures bases après. Je sais que ça peut apporter beaucoup de bien aux humains, mais aussi aux chiens de faire des pauses. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas des plans d'entraînement tous les jours.
Donc un beau plan d'entraînement, c'est un plan que la famille peut suivre sans s'épuiser, comme on le disait juste au-dessus. C'est aussi savoir ne pas faire, c'est savoir aussi retirer des choses quand c'est nécessaire, soit parce que ça convient pas au chien, soit parce que ça convient pas à l'humain. Il n'est pas construit que par le professionnel, il est construit avec. Ça veut dire que si vous avez des idées ou des suggestions, il faut les formuler, il faut réfléchir avec nous. Pourquoi? Parce que ça vous permet de mieux comprendre et donc d'être plus autonome par la suite, parce que c'est notre but ultime que vous continuiez en autonomie, ou en tout cas le plus possible, puisqu'on ne vous lâche pas dans la nature après, mais ça, on y reviendra à la fin. Et c'est aussi parce que parfois, vous avez des idées qui sont extrêmement pertinentes. Et que nous, on va plutôt, moi, quand on me propose quelque chose du genre, bah attends, là, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec, je sais pas moi, un peu moins d'échauffement, ou si je mets le chat au premier étage ou si peu importe, plein d'idées. Généralement, je vous encourage à ce qu'on les teste ensemble pour ensuite interpréter le résultat ensemble, parce que c'est ça l'élément le plus important, c'est arriver à comprendre comment sent son chien pour savoir ensuite comment on ajuste pour la suite de l'aventure. Voilà. Donc, pour nous, c'est en ce sens que les suivis peuvent être que individuels, en tout cas dans la manière dont on travaille, nous. Il y a trop de variables différentes.
Ouais, et puis en plus, enfin, je rebondis juste sur ce que tu disais. C'est vous qui connaissez le mieux votre chien. Nous, on connaît le langage corporel, on sait les signaux de stress, etc. On sait, enfin, avec l'expérience, etc., enfin, nos formations, on sait quand un chien est stressé, quand il l'est pas, etc. Mais c'est vous aussi qui connaissez le mieux votre chien et ce qui va lui convenir, ce qui ne va pas lui convenir. Aussi, comment est fait votre logement aussi, et est-ce qu'il y a des pièces où il est plus à l'aise que d'autres? Enfin, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Et ça, on peut pas le faire sans vous, en fait. Donc, c'est aussi important à bien comprendre.
Un travail d'équipe en fait, donc les membres de l'équipe doivent être autant investis les uns que les autres. Donc on personnalise autant que possible. Après, on n'est pas non plus des magiciennes, c'est-à-dire que quand on est dans des cas où on doit suspendre les absences ou faire quand même un minimum d'entraînement sur une période de temps, si on s'entraîne pas, ça avance pas, c'est normal. Mais parfois on en a besoin pour se ressourcer, mais néanmoins pour que ça avance, faut à un moment donné arriver à avoir une cadence minimale, on va dire. Mais il y a un juste milieu à trouver ensemble entre efficacité et durabilité.
Et oui, du coup, c'est vraiment important de s'investir parce que nous, on ne peut pas faire les choses à votre place. On n'est pas là tous les jours, enfin, on est là tous les jours en soutien, à distance, etc., pour vous guider. Mais si vous ne faites pas les choses, on peut pas faire de la magie, clairement. Faut travailler pour avoir des résultats. Il faut travailler pour avoir des résultats, mais il faut aussi ne pas pousser son chien au-delà de ses propres limites. Et ça, c'est aussi important. Ça fait partie de votre investissement de bien prendre conscience que si vous poussez trop loin, par exemple, la durée des exercices ou que vous faites trop d'exercices en une seule et même journée, ça peut être pesant pour votre chien et ça peut du coup dépasser son seuil de tolérance à la solitude et le mettre en difficulté. Et donc, le replacer dans un état de stress qu'il peut déteindre sur toutes les autres sessions suivantes.
Alors, en conclusion, si on vous résume un peu notre façon de travailler, on travaille en individuel avec des plans sur mesure, du coup. Tout commence par un bilan où on analyse avec vous un maximum de choses, où on liste les données complémentaires à récolter si nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Et derrière, on enchaîne soit sur des séances à l'unité ponctuelles, soit sur des protocoles de suivi plus intensifs où on réapprend le chien à être progressivement seul, pas forcément en s'attaquant directement à la porte d'entrée et à son franchissement, mais parfois avec d'autres étapes intermédiaires.
Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à nous suivre sur Instagram. À bientôt!
Et caresse à vos affreux poilus!